Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Virginia Crespo.
L'émission Au fil des pages a le grand plaisir aujourd'hui de recevoir Jean-Luc Mouton. Bonjour Jean-Luc
Bonjour.
Mouton.
Bonjour.
Jean-Luc Mouton, pour dessiner votre parcours, je dirais qu'après avoir suivi une formation de juriste, de théologien et de journaliste politique, vous avez exercé différentes missions dans le protestantisme. Vous avez été responsable, notamment responsable national des éclaireurs unionistes de France et aumônier universitaire à Strasbourg. Actuellement, vous continuez de vous consacrer à la presse écrite nationale. Vous avez été ancien chef du service politique au quotidien La Croix. Et vous avez collaboré d'ailleurs à de nombreuses émissions de radio, en particulier sur France Culture. Vous avez animé une rencontre culturelle et religieuse chaque semaine,
C'était chaque semaine, oui, le dimanche matin, avant les émissions religieuses.
Vous êtes actuellement directeur de la rédaction de l'hebdomadaire protestant Réforme.
Quelques mots sur Réforme.
Sur Réforme.
Oui, donc Réforme est un journal, c'est un hebdomadaire qui prétend jeter un regard particulier sur l'actualité du monde, qu'elle soit politique, économique, sociale, culturelle et religieuse aussi. Et donc, il n'y a pas de domaine qui nous échappe, mais avec un angle de vue un peu particulier. C'est-à-dire que nous n'allons pas traiter ni des chiens écrasés, ni des événements people. On ne parle pas beaucoup de Carla Bruni dans notre journal, mais on essaie de décrypter l'actualité à la lumière de notre espérance chrétienne et du message de la Bible. Donc, c'est l'actualité politique, économique d'un côté, et puis la révélation biblique de l'autre. Et est-ce qu'il y a des ponts entre les deux? Est-ce qu'il y a un moyen de lire cette actualité du monde à travers le message que nous donne la Bible? Puis est-ce que quand on lit la Bible, l'actualité du monde ne doit pas nous interroger aussi? C'est ce qu'on essaie de faire toutes les semaines. Donc c'est à la fois un journal d'actualité générale, politique, etc. Mais c'est aussi un journal de réflexion spirituelle et intellectuelle protestante.
Alors Jean-Luc Mouton, j'ai envie de vous poser la question. Est-ce parce que vous avez eu la même formation de juriste qu'un certain Jean Calvin que vous avez été amené à vous interroger sur sa vie, son œuvre et que vous faites en quelque sorte chorus dans cette année jubilée consacrée aux 500 ans
de... Oui, on peut dire ça. Enfin, non, honnêtement, c'est une commande. C'est-à-dire que Gérard de Cortance, qui dirige la collection de Gallimard, Folio, Biographie, cherchait quelqu'un pour faire un Calvin. Alors, il voulait un Calvin qui soit écrit de manière accessible, moderne, et puis pas trop, enfin, 16e siècle ou abscon pour le grand public. Et il cherchait plutôt quelqu'un qui écrit facilement. Et donc, ils ont pensé à un journaliste. Et j'étais ce journaliste. Mais c'est une commande. Mais j'ai été très heureux de le faire. Et effectivement, en le faisant, je me suis découvert beaucoup d'affinités avec Calvin, ne serait-ce effectivement que cet amour de la loi et du droit que j'ai fait aussi. Et c'est vrai que Calvin est d'abord un juriste. Même avant d'être un pasteur, c'est un juriste.
Alors, votre livre s'intitule Calvin, tout simplement.
En toute simplicité.
Et c'est donc paru dans la collection Folio Biographie chez Gallimard. Oui, alors... Justement, comment, avant d'entreprendre ce parcours aux côtés de ce personnage, de ce grand réformateur, quel sentiment aviez-vous de votre toute première rencontre avec Calvin? Est-ce que vous en avez un souvenir? Est-ce que c'est un souvenir estudiantin? Est-ce que vous avez fait 2 années de théologie?
Non, j'ai fait 5 ans de théologie.
5 ans de théologie.
J'ai fait toute la théologie, j'ai fait le cycle classique, j'ai fait du droit et de la théologie. Mais c'est vrai, vous avez raison, quand on m'a demandé de faire ce livre, j'ai un petit peu hésité parce que honnêtement, je connaissais Calvin pour l'avoir étudié quand j'étais étudiant, mais quand on a 18-20 ans, on voit les choses d'un peu loin et en plus de ça, enfin je sais pas, on les voit peut-être pas avec la patience ou disons la bienveillance que j'ai beaucoup d'années passées, je sais pas, à élever des enfants, à apprendre beaucoup de choses de la vie. Je pensais que c'était un homme d'abord austère, pas très rigolo, un peu pisse-vinaigre comme on dit dans le sud, comme on dit chez moi. Et vraiment pas très encourageant, pas très reluisant. Au contraire de Luther. Luther qui est un personnage bon vivant, où il y a des propos de table, où il discute de la bonne chair, de la bière, et tout ce que vous voulez. Là, Calvin, c'est plutôt froid, austère et triste. Et j'avais cette image-là. Et j'avoue que j'en ai changé quand même, en le lisant et en le découvrant. C'est un homme beaucoup plus intéressant que ce que je pensais au départ.
Bon,
et beaucoup plus vivant, surtout.
Vous allez nous en dire quelques mots tout au long de cette émission. Alors, quelle construction avez-vous souhaité observer dans la rédaction de cet ouvrage? Comment vous êtes-vous mis au travail par rapport à la structure de ce livre?
C'est-à-dire, vous savez, quand on commence un livre comme ça, on part par tous les bouts. Alors, je me suis branché sur quelques histoires qui me paraissaient invraisemblables et qui me choquaient vraiment. Cette histoire de Servet, par exemple. Servet, qui était un homme qui ne croyait pas à la Trinité. et qui, après différentes pérégrinations, est arrivé à Genève. Enfin, on ne va pas raconter l'histoire, toute l'histoire ici, mais en tout cas, c'est un homme qui a été condamné à mort à Genève, sous, non pas l'autorité de Calvin, parce que Calvin a séparé le religieux du politique, ce n'est pas lui qui l'a condamné, ce sont les magistrats, il explique ça très bien, mais malgré tout, c'est une tâche énorme. Je me dis, mais comment un type pareil, qui a aussi, des idées aussi fortes et qui parle autant de manière aussi splendide de Dieu, pourquoi il a pu laisser faire, ou il a pu encourager, ou au moins pas s'opposer à une telle affaire? Et je me suis attaqué à cette histoire-là, qui me traumatisait. Et donc, j'ai lu tout ce que j'ai trouvé, il y a eu des colloques, il y a eu des tas de choses là-dessus depuis évidemment des années. Vous savez que dans différents coins de France, il y a des lycées Servet, il y a des boulevards, des places, parce que Servet est devenu une espèce d'emblème de l'intolérance religieuse, enfin le contre-exemple absolu de ce que les religions peuvent faire de pire. Et donc je me suis attaqué à ça. Et puis j'ai découvert.
Et votre enquête.
Voilà, je me suis découvert que c'était pas si simple, que c'était plus complexe et que Calvin n'était pas si coupable que ce que je le pensais et que l'affaire était d'abord aussi, il fallait pas perdre d'anachronisme. Quand on se penche sur une histoire d'une époque, on se rend compte des mœurs de l'époque, ce qu'est l'époque et la Renaissance. On a une très belle idée de la Renaissance, mais en fait c'est une époque à la fois belle au plan des arts, mais d'une violence inouïe au plan des mœurs, de la guerre, des sévices qu'on faisait subir aux prisonniers, aux sorcières, en fait toutes sortes de gens déviants. C'est épouvantable. Enfin, c'est une époque d'une rudesse, d'une violence épouvantable. Ça, on le sait quand on en fait un petit peu d'histoire, comme j'en ai fait, mais je l'ai découvert encore plus fortement. Et donc, ça a relativisé aussi l'histoire de Calvin dans cette place-là. Et de fil en aiguille, je me suis mis à remonter à ce qu'il faisait à Genève, son influence politique, son influence sociale. Est-ce qu'il avait vraiment participé à ce procès? Et en remontant de fil en aiguille, comme ça, j'ai repris toute sa vie. Et puis, on en revient aux origines, d'où il sort finalement, d'où il venait. Est-ce qu'il y a quelque chose dans son enfance? Vous savez, aujourd'hui, on fait beaucoup de psychanalyse. Un auteur qui a fait tout un livre comme ça, en psychanalysant beaucoup Calvin, c'est Denis Crouzet, qui est un homme remarquable, son bouquin est remarquable, mais je trouve qu'il est trop psychologisant. J'ai travaillé aussi à partir de ça, en me disant, mais qu'est-ce qu'il y a à l'origine? Il a perdu sa mère, mais est-ce que ça compte? Je me suis rendu compte que non, ça comptait pas vraiment. D'abord parce qu'à l'époque, beaucoup de gens perdaient leurs parents ou leur mère à la naissance. Il y avait beaucoup de décès. Donc voilà, j'ai remonté sa vie par pas mal de bouts. Et la construction de mon livre, je l'ai faite simplement en prenant... Enfin, moi, j'ai fait une introduction, une préface un peu importante pour dire dans l'esprit dans lequel je le faisais, qu'est-ce que c'était Calvin. Et puis après, j'ai remonté le cours de sa vie en partant de Noyon, en Picardie. Je suis allé voir là-bas, je suis allé sur les lieux, je suis allé visiter, voir la cathédrale, voir les rues de cette ville. Je suis allé à Genève aussi pour reprendre ses traces et après réécrire son histoire. Donc moi, j'ai écrit son histoire telle que je l'ai vue. Enfin, je pense que c'est aussi un exercice très subjectif. Moi, j'ai retenu des choses que d'autres n'ont pas retenues et j'ai été touché par des choses que d'autres n'ont peut-être pas vues. Enfin, c'est mon Calvin. Ce n'est pas un Calvin universel. Voilà. Je n'ai pas prétendu faire une œuvre absolue, mais en tout cas, avoir un regard qui était le mien.
Oui, alors un journaliste, mais un journaliste qui prend un peu parti par rapport à la personne qu'il va découvrir.
Vous avez raison. Non, au départ, j'étais un peu dubitatif sur la personne, et plus j'ai lu, d'abord ce qui m'a frappé aussi, c'est que je pensais que c'était quelqu'un d'austère, je vous disais tout à l'heure, et j'ai découvert des textes, notamment un fameux texte qui s'appelle Le Traité des Reliques, qui est d'un humour extraordinaire, qui est d'une force aujourd'hui encore, qui est même iconoclaste, enfin il dit des choses pour critiquer les pratiques catholiques, qui même aujourd'hui sont choquantes. Quand je le dis, je fais beaucoup de conférences maintenant pour Calvin, je suis devenu un des spécialistes de Calvin malgré tout, même si je ne prétends pas l'être. Et donc je fais pas mal de conférences, et quand je cite quelques histoires de Calvin, les gens quand même tiquent un peu, enfin même aujourd'hui c'est un peu choquant. Trouver un humour assez extraordinaire, une virulence dans le langage et qui est extraordinaire, une langue magnifique et ouais, une espèce de force de vie dans le langage, une langue française magnifique. Et ça, je trouve que ça, c'est un défaut de notre culture française, c'est qu'on a Calvin, il est largement ignoré. On ne sait pas que c'est un homme qui était à l'origine de la langue. C'est un de ceux qui a écrit le premier en français, et d'une manière magnifique. On peut le lire encore aujourd'hui. La Pléiade vient de sortir ses principales œuvres en dehors de l'institution chrétienne. Et quand on lit ces textes, on les lit aujourd'hui, on comprend bien et on sent ce style, enfin un style formidable, qui est moderne, enfin qui est très vivant. Très vivant. Et ça m'a beaucoup plu. Je me suis dit, tiens, le bonhomme doit être plus intéressant que ce que je pensais. Il faut que je le lise plus attentivement. Et plus je le lisais, plus je trouvais des éléments intéressants. Et puis, je me trouvais parfois en accointance avec lui. Enfin, je comprenais ses passions, sa virulence, ses émotions. Et puis, je lui ai pardonné plus que ce que je pouvais imaginer au départ. Parfois, il exagère, c'est sûr. Mais en même temps, on peut comprendre. Parfois, on peut comprendre. Parce qu'il était vraiment attaqué de toutes parts.
Oui, alors, on le verra tout à l'heure, cette voix, cette puissance dans l'écriture, et ouais, à l'oral. Ouais. Et on verra autant de traits de personnalité, de caractère, qu'autant ses détracteurs, qu'autant ses supporters ont essayé de minimiser pour que le message de Calvin passe. Vous nous raconterez tout ça tout à l'heure. Je souhaitais faire lecture des premières lignes de votre ouvrage, les lignes que l'on trouve page 9, car vous écrivez, Jean-Luc Mouton, « Quelle que fût la vie de cet homme, sa mort seule impose un certain respect. » C'est le sentiment, l'attitude que vous inspire Calvin, le respect avant
c'est
tout.
Vrai, c'est vrai. Vous savez, j'ai commencé par ce récit de sa mort parce que je trouve qu'il est très fort et c'est quelque chose qui est très protestant en même temps. On peut critiquer, mais l'idée de Calvin, c'était qu'il voulait montrer qu'il était qu'un canal, qu'il était quelqu'un qui parlait d'autre chose que de lui, qui parlait d'une parole qu'il dépassait, de la parole biblique, du message biblique. Et il voulait, parce qu'il était à l'époque, quand il est mort, il était quand même extrêmement connu. Les gens se pressaient devant sa porte du matin jusqu'au soir et même parfois la nuit pour lui demander conseil, avis, etc. Et il était entouré de centaines ou peut-être de milliers de gens qui venaient l'écouter et écouter ses commentaires. Et en même temps, il a décidé qu'il devait mourir absolument dans la plus grande humilité. Donc, à son enterrement, il était allé à plein palais, c'était en dehors de la ville. Aujourd'hui, à Genève, un quartier de la ville. C'était alors une espèce de banlieue où il n'y avait rien. Il a demandé à ce qu'on l'enterre dans une fosse commune pour qu'il n'y ait pas de lieu de mémoire. On l'a mis dans un sac en toile qu'on a cousu. Il y avait là personne, il y avait trois personnes, peut-être sa sœur, son frère. Et peut-être Théodore de Bèze, on n'a pas chanté de cantique, on n'a pas prêché, on n'a rien dit de lui, on l'a mis en terre, on a jeté des pelletées de terre dessus et on est parti. Et la foule était loin et il n'y avait rien d'autre. Et il a demandé ça parce qu'il voulait qu'il n'y ait pas de lieu de souvenir de sa personne à lui. Il voulait qu'on se souvienne de son message et du message biblique qu'il avait défendu. Et ça, quelque chose de. C'est presque trop. C'est d'une espèce de détachement de soi, une manière de nier, de se nier soi-même, qui est très. D'un côté, est très belle, c'était assez impressionnant. Et en même temps, c'est trop. Parce que peut-être que l'homme, il faut qu'il existe aussi. L'humain et la chair est là. Et c'est peut-être un défaut des protestants. C'est à la fois une belle qualité. Aujourd'hui, on fait ça encore dans les Cévennes, dans les régions protestantes. On enterre la personne décédée et on va dans le temple où on écoute le message biblique. On ne parle pas de la personne, on ne parle jamais des personnes, on parle du Christ et de la résurrection. Bon, c'est magnifique. Mais en même temps, quelque part, l'humain, il existe aussi. Et alors, on nie un peu, on se nie dans sa chair, dans son être, dans ses sentiments. C'est ce qu'a fait un peu Calvin, là. Il nous a initié ça. C'est à la fois beau et à la fois, c'est pas complètement vrai, parce qu'on existe, on est des êtres de chair et de passion. Bon, c'est un peu ça, peut-être, la critique qu'on peut faire au protestantisme. Et c'est Calvin qui nous a induit là-dedans.
Vous écrivez, Jean-Luc Mouton, de ce petit groupe émergent les silhouettes de Théodore de Bèze, le successeur et confident, Antoine, le frère du défunt, Marie, sa sœur et quelques intimes. La foule des anonymes ne participe pas à l'événement, pas de cérémonie, pas de discours, pas d'hymne. La fosse commune est ouverte, béante, devant le petit cercle. Lentement, sans un mot, le corps du défunt est porté en terre. Il repose là, entouré d'un simple linceul, sans cercueil, simplement cousu dans un drap de grosse toile. Il n'y aura ni tombe, ni pierre tombale, ni aucun signe visible, aucun lieu de mémoire. L'homme que l'on porte ainsi à terre s'appelle Jean Calvin. Alors, qu'aurait-il dit notre Jean Calvin à l'écoute de toutes les commémorations,
vous avez raison.
De toutes les conférences, de toutes les personnes qui vont s'intéresser à lui? C'est en quelque sorte la protection contre l'idolâtrie.
Exactement, ouais, c'est ce qu'il ne veut pas.
La peur de l'idolâtrie.
Ouais, il veut pas. À la fois, c'est intéressant parce que là, je crois que Denis Crouzet a raison. Il ne veut pas. Il ne veut pas qu'on parle de lui. Il veut être juste le messager de Dieu. Mais en même temps, il parle de lui tout le temps. Quand il se bat contre tous ses ennemis, tous les gens qui critiquent sa pensée, qui critiquent sa théologie, il parle aussi de lui. Quelquefois, il parle de lui. En deux, trois textes, il parle un petit peu de son enfance ou de lui. Mais il y a un côté vrai, enfin beau, mais en même temps, un côté un peu tragique, de se nier comme ça. Je ne sais pas si c'est tout à fait juste.
Alors, on a tous en tête, avant de se plonger, de s'immerger comme vous l'avez fait pour nous, Jean-Luc Mouton, dans la vie, dans l'œuvre de Jean Calvin, de ce portrait de personnage fatigué, très émacié, jaune, quelque chose de maladif,
oui,
de fragile,
jaunâtre, oui,
voilà, caricaturé, largement ignoré, écrivez-vous, Jean-Luc Mouton, Calvin mérite beaucoup mieux que la réputation de rigueur, de la seule rigueur qui lui est faite. Et ne vous êtes-vous pas attaché doublement à continuer d'enquêter sur Calvin, en quelque sorte, parce qu'il y avait ce constat-là, qu'il y avait quelque chose qui n'était pas à sa place, que Calvin méritait beaucoup mieux et que, d'un certain côté, lui rendre hommage, c'est aussi dépoussiérer l'image qu'on a voulu nous transmettre. Alors, c'est qui? C'est l'Église apostolique romaine qui a voulu la contre-réforme, qui a voulu nous envoyer une image de réformateur pisse-vinaigre, comme vous le disiez, amoureux de la rigueur, mais à l'extrême, fondamentaliste donc, quelque part par là. Ou est-ce les personnes de son entourage qui ont souhaité, comme vous vous le disiez, qu'avant tout, de façon très protestante, eh bien, ce soit avant tout le message divin qui passe et qu'on fasse fi de l'homme. Alors quelle part des choses ?
Ouais, c'est un peu complexe. C'est que, à la fois, est-ce que de son temps, ceux qui sont, l'ont succédé le vénéraient, tous ses proches le vénéraient, que ce soit Théodore de Bèze ou d'autres, ils avaient quand même, ils disent que quand ils parlaient du maître Calvin, c'était pour eux quelque chose de je crois, de très impressionnant. Mais il les entourait de beaucoup d'affection d'ailleurs, ce qu'on ne sait pas vraiment. Mais il y a plusieurs choses. Il y a effectivement la critique, la polémique catholique a été d'une violence, d'une virulence incroyable. Vous savez, en France, on a pratiquement pas eu de biographie de Calvin. Personne ne connaissait en dehors d'un texte qui a été écrit par un certain Bolsec, qui était un des opposants terribles à Calvin, qui était d'ailleurs qui était passé par la Réforme, qui était venu à Genève et qui avait critiqué Calvin sur le thème de la prédestination, qui est un grand sujet de Calvin. Il parlait de la foutue prédestination, d'ailleurs. Au VIe siècle, ils avaient des expressions très fortes, moi que j'aime bien, d'ailleurs. Et donc, il était très critique vis-à-vis de Calvin. Et Calvin s'est fâché tout rouge contre lui. Ils ont polémiqué publiquement. Et ce Bolsec a été banni de la ville de Genève. On lui a dit de partir ailleurs. Il est allé à Lausanne, à Neuchâtel. Il y a eu des troubles partout autour de lui. Et il est retourné au catholicisme en France. Et il a écrit, lui, une biographie de Calvin, qui était connue en France. Bossuet, il semble, l'a connue. Et plusieurs auteurs en France l'ont connue. Et cette biographie est une horreur absolue, oui, un tissu de mensonges, d'horreur, on le traitait de pédéraste, en fait, tout ce qu'on peut imaginer de plus grave et de plus horrible, de détournement d'argent, de tout ce qu'on pouvait... D'ailleurs, Calvin a très peur de ça, donc on critique Genève, qu'on dise que Genève était licencieuse et qu'il se passait des choses épouvantables. C'est pour ça que Genève était très serrée au niveau des mœurs et de la rigueur. Même, il y avait une espèce de police dans des rues qui ne voulait pas que les gens fassent n'importe quoi, tellement Calvin avait peur de ce qu'on lui fasse cette mauvaise réputation. Et Bolsec a fait ça, cette réputation épouvantable, qui n'a rien à voir avec le personnage de Calvin, qui était le pauvre, atteint de beaucoup de maladies. Il était, comme on disait tout à l'heure, vous disiez, un peu hâve et comme ça, avec la mine.
Il ne l'a pas été tout le temps.
Non, mais si. il était malade tout le temps.
Il était d'une santé fragile, une constitution fragile.
Il avait des maux d'estomac, il avait de la voûte, des calculs, des migraines épouvantables. Enfin non, c'est un type.
Mais alors, comment a-t-on pu dire de lui que c'était un être charnel ?
Non, mais c'est-à-dire que ce que je trouve étonnant, c'est qu'à la fois, il ne veut pas exister en tant comme être avec tout ce qu'il pouvait ressentir, mais il est parfois d'une violence incroyable. C'est-à-dire qu'il a des passions, et c'est ça qu'on ne voit pas, qu'on ne peut pas voir quand on le voit de très loin. C'est-à-dire que, par exemple, quand une fois ou l'autre, ils se mettent d'accord pour un texte, parce qu'il passait beaucoup de temps à débattre avec les autres églises de Genève, de Suisse, pour trouver un point d'accord. Et à un moment, il trouve un point d'accord et à grand-peine, au bout des jours et des jours de débat, et puis il rentre chez lui parce qu'il était fatigué et on revient le voir et on lui dit on a changé d'avis. Et donc, il prend le texte qu'on lui tend et il balance au feu. Ce qui n'est pas rien parce qu'aujourd'hui, on peut faire une photocopie, mais à l'époque, c'était des parchemins, c'était pas si simple. Ou c'était des textes qui étaient quand même pas... On ne pouvait pas les reproduire à l'extrême. Donc, il a un geste, une violence incroyable, une colère et qu'il regrette. Après, il dit que ça ne va pas et que c'est terrible. Mais c'est un être, oui, de passion, on le voit pas, mais ça boue à l'intérieur, on le sent, quoi.
Alors, on l'a dit aussi, très inféodé à des satisfactions de plaisir mondain et sa volonté de briller.
Alors ça c'est des accusations. Hein. Sa volonté de briller, non, c'est un type extrêmement brillant, un homme extrêmement brillant, mais il cherche pas à briller, non, il cherche à convaincre. Il cherche à prouver. Et ce qui est formidable, c'est qu'il s'adapte à tous les publics. C'est-à-dire qu'il parle en latin à tous ses collègues, qu'ils soient catholiques ou luthériens. Alors, on n'a pas parlé des luthériens et des autres protestants. C'est aussi ça qui a fait la mauvaise réputation de Calvin, parce qu'il débattait beaucoup avec les autres protestants, notamment les luthériens allemands, et qu'il contestait énormément aussi. Et les luthériens...
Par rapport à Luther.
Voilà. Les luthériens ont fait passer des images très négatives de Calvin aussi. Tout le monde était contre lui, au fond. Et c'est pour ça aussi qu'il était parfois acculé et très dur et un peu austère, parce qu'on les critiquait du côté catholique. On le critiquait beaucoup du côté luthérien et on le critiquait aussi du côté des anabaptistes qui étaient parmi ses opposants. Donc il avait quand même pas mal d'ennemis, sans parler des problèmes internes à Genève où il se battait sans arrêt contre les magistrats.
Alors vous citez deux de ces historiographes célèbres, Théodore de Bèze qui a pris la succession de Calvin,
son successeur.
Et Nicolas Colladon, et vous écrivez « Conter la vie de Calvin revient à reprendre le fil d'un procès qui a débuté de son vivant et qui s'est donc développé sitôt son décès connu
ouais, ». C'est ça. Mais qui continue, hein, qui a continué longtemps, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez de ce texte de Stefan Zweig, qui, au moment de la guerre, a écrit un texte, Sébastien Cantelian, contre Calvin, où il décrit Calvin, c'est un nazi, enfin, c'est un homme de la Gestapo qui fait régner une police épouvantable à Genève, alors que Cantelian est l'image d'un type ouvert, démocrate et généreux. Et donc, ce procès de Calvin, c'est pas tous les siècles, on l'a repris. Pendant deux siècles, il a été totalement ignoré. Au XVIIe, XVIIIe siècle, personne n'en parlait, même les protestants l'avaient un peu laissé de côté, il n'avait pas grande influence. On a redécouvert Calvin au XIXe siècle, Il y a eu beaucoup de textes là, mais alors, à géographique, c'était presque un peu délirant de notre côté. Et puis, je trouve que ce 500e anniversaire me remet un peu les choses au point. C'est-à-dire qu'on s'intéresse moins, on fait moins l'éloge de la théologie. Moi, je ne suis pas un théologien calviniste. Enfin, il y a des tas de choses qu'on peut discuter. Mais on est en train de redécouvrir un peu l'homme dans son contexte. Maintenant, je trouve qu'on arrive à un peu plus un équilibre aujourd'hui. On arrive à dépasser les passions qui nous ont beaucoup opposés. Mais vous savez, c'est aussi des passions qui sont à l'intérieur du monde protestant. Il y a des gens qui sont des disciples de Castelnau et des gens qui sont des disciples de Calvin. Et il y a des antagonismes irréductibles entre les deux. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est ça qui est assez rigolo.
Alors, vous vous interrogez aussi sur cette question, on l'a abordé tout à l'heure, du déni de soi dans le protestantisme. Est-ce que Calvin se laisse découvrir au fond, comme écrivez-vous, comme l'être absent de la pensée calvinienne? C'est fort.
Non, mais c'est ça, il ne veut pas être central. Or, on voit bien l'influence considérable qu'il a. Tout ce qui fonde aujourd'hui les églises protestantes réformées, parce qu'il a fondé le courant réformé, tout est fondé sur Calvin. La discipline de l'église réformée encore à l'heure actuelle, elle a été rénovée moult fois, mais c'est Calvin qui l'a inaugurée. Les cantiques, la liturgie, tout, Calvin a tout fait. Il a les fondements de nos églises réformées sont là chez Calvin.
Finalement, vous vous retrouvez un peu dans vos œuvres différentes, dans des domaines différents. Mais vous, avec le journalisme, le jeu est nié dans le journalisme. Enfin, on évite le jeu de façon à transmettre une information
objective.
La plus objective qu'il soit, la plus neutre. Et là, dans les commentaires bibliques, le jeu se veut guidé par la négation de soi au profit, écrivez-vous, de la seule affirmation de la volonté de Dieu, la volonté divine. Donc, c'est la même démarche pour transmettre.
Oui, c'est ça. C'est pour pas trop qu'on soit pas un écran. Il faut que la personne humaine, que lui-même, que nous, comme journalistes, ne soyons pas un écran. C'est-à-dire que si on se met à étaler son pathos ou ses émotions ou faire ses commentaires, c'est insupportable. Quand les journalistes, enfin, je sais pas si comment vous le prenez, mais quand des journalistes, au lieu de nous raconter les faits, font du commentaire, ne séparent pas les faits du commentaire, c'est ce qu'on apprend dans les écoles de journalisme, c'est insupportable. Enfin, c'est énervant. Et on fait beaucoup ça à la télévision et partout. Mais n'empêche que c'est une dérive. Et Calvin a bien perçu ça. Lui, il veut pas parler de lui, il veut parler de ce qui lui paraît d'essentiel, du message qu'il a délivré. Là, je suis d'accord avec vous. C'est
alors
même,
justement,
même
quelle
démarche.
Est la mission de Calvin? Est-ce que vous voyez en lui une mission prophétique? Est-ce qu'il se concevait lui-même comme un prophète, un missionnaire?
Ouais, je crois que oui. Je crois que c'est à son corps défendant. C'est-à-dire qu'il ne veut pas, parce qu'un prophète, c'est un rôle considérable. Enfin, c'est pas être donné des mortels.
Mais il a fui un peu sa mission, ouais, au début. Hein. Il aurait préféré être à ses chères études.
Il dit qu'il voulait être dans son cabinet, qu'il était timide, qu'il était pusillanime. Enfin, bon,
mais vous y croyez?
J'y crois pas. Enfin, à la fois, j'y crois un petit peu parce qu'il est, vous savez, c'est les personnages bibliques. C'est le modèle. Ces modèles, c'était les personnages bibliques. C'est Moïse, c'est David, c'est tous les grands prophètes bibliques qui chaque fois rechignent. Ils veulent pas être
Jonas.
Voilà, Jonas. Ils veulent pas y aller. Ils veulent pas prêcher. Ils veulent pas être témoins. Et puis Dieu les contraint. Dieu les oblige. Et voilà, il faut passer par des fourches codines. Il veut pas. Il a l'impression que s'il est comme ça, il sera fidèle. Fidèle à ses grandes images bibliques, parce qu'il passe sa vie aussi avec les personnages bibliques et il est ses grands personnages bibliques lui-même. Il est un espèce de continuateur, quoi.
Vous écrivez, Calvin prétend ainsi être héritier d'une lumière qui doit permettre de débusquer le mal et les dérives des faux docteurs. Il y en avait à l'époque. Hein, des faux docteurs.
Mais il fait beaucoup ça. Ouais.
Il n'est qu'un relais, un organe de diffusion et de répétition par la voix ou l'écriture de la pensée même de Dieu. Une manière d'être à soi et à Dieu que l'on qualifierait aujourd'hui, dites-vous, écrivez-vous, Jean-Luc Mouton, de fondamentaliste.
C'est-à-dire que oui, il n'y a pas beaucoup de distance, quoi. C'est-à-dire que oui, il pense que ce qu'il lit dans la parole de Dieu et la manière dont il la commente, c'est ce qu'il faut croire. Il n'y a pas beaucoup de débats.
Mais vous ajoutez, concernant Calvin, c'est tout de même une forme d'illuminisme ou de prophétisme inspiré qui impressionne, d'autant plus qu'il ne s'accompagne pas d'émotions spirituelles ni de trans mystiques.
C'est vrai, c'est un personnage.
C'est
très intellectuel.
C'est par la raison.
C'est ce qu'il défend beaucoup. Il dit c'est Dieu parle par la raison, par l'intelligence. Il a une intelligence vive. Enfin, c'est surtout ça qui est impressionnant. C'est un homme d'une intelligence extraordinaire, Calvin. Et il sent les choses. D'ailleurs, c'est souvent par intuition. C'est une intuition d'intelligence. C'est pas une intuition émotive, quoi. Jamais il n'est pas dans l'émotion. Enfin, il veut pas.
Dans l'émotion pure,
non, ça ne lui plaît pas. Mais en même temps, il est dans une intelligence vive qui sent les choses. C'est une forme aussi d'intelligence qui relie à la fois la raison pure et l'émotion. Il a des intuitions sur les commentaires bibliques qu'on peut tout à fait défendre aujourd'hui. Même avec la critique historique biblique qu'il n'a pas, on voit que parfois, il dit des choses qui sont tout à fait pertinentes et très fortes sur les textes, alors qu'il n'a pas les moyens que nous avons intellectuels, que nous avons aujourd'hui, la recherche qui a été faite pour savoir vraiment le sens profond des textes. Et lui, il le ressent. Il l'explique de manière tout à fait intelligible pour aujourd'hui. théologie.
On a parlé de sa formation de juriste, mais finalement, a-t-il fait de la théologie?
Non, jamais.
Il est autodidacte.
Ben absolument. Enfin, il est quand même. C'était, vous savez, au départ de sa vie, on n'a pas trop parlé de son itinéraire, mais c'était, il était ici à Paris. Il était à la Sorbonne. Enfin, la Sorbonne. Oui, c'était l'université. Il y avait une université à l'époque. Il a fait le collège de Montaigu. Il a fait la meilleure voie, si vous voulez, intellectuelle. Et c'était un intellectuel de cours. C'était, enfin, parfois dans les conférences, je dis, c'était le Bernard-Henri Lévy de l'époque. C'était quelqu'un qui était dans la cour, dans les cours. Il était chez Marguerite de Navarre. Il était dans un cercle d'intellectuels et il débattait à longueur de temps du devenir des âmes. Enfin bon, c'était vraiment parce que les débats à l'époque étaient des débats théologiques. Il avait fait des humanités, donc des grandes études à la fois sur l'Antiquité. Il avait appris le grec ancien, le latin. Bien sûr, il parlait tous latin. Et c'était des intellectuels distingués.
Esprit.
Voilà.
Un
bel esprit distingué.
Mais qui communiquait bien.
Qui communiquait bien, qui était apprécié. Et donc, il y a eu une rupture dans sa vie, un changement très important à mesure où il passe à la réforme. Il passe du côté des évangiles, ce qu'on appelait les évangéliques à l'époque. Mais au départ, c'est vraiment un pur intellectuel qui aime les jeux intellectuels. Et sa formation, elle est humaniste. Elle est comme les grands humanistes, comme Erasme, comme Guillaume Budé, comme tous les gens qui côtoyaient à l'époque. D'ailleurs, il fait un premier texte, un commentaire de Sénèque, où il prend à partie ce qu'avait dit Erasme, ce qui était à l'époque énorme, parce qu'Erasme était indépassable. Et il se permet de faire des remarques à Erasme, de critiquer son interprétation. Donc, il ne se prend pas pour rien. Enfin, c'est un intellectuel qui est assez fier de l'être, quoi, hein, dans ses débuts, en tout cas.
Sa mission première, c'est le retour aux sources.
Alors voilà, parce que ça, c'est ce qui se passe au XVIe siècle, c'est l'humanisme, hein, et c'est le retour aux textes anciens, aux textes d'Antiquité, et dans les textes d'Antiquité, évidemment, le retour aux textes bibliques. Et c'est un peu ce cheminement-là qui va suivre en rencontrant ce qu'on appelait à l'époque les évangéliques, c'est-à-dire la pensée de Luther, qui diffusait la pensée de Luther à l'époque, sur quelques thèmes, hein, vous savez, les thèmes de la réforme protestante, le salut par la foi seule, par la grâce seule, le retour à l'écriture seule. Et donc, on voit qu'il fréquente ces cercles-là. Est-ce qu'il les défend jusqu'au bout? On ne sait pas très bien. Il ne raconte pas sa conversion, il ne raconte pas un moment de passage. Il raconte lui-même qu'au moment dans sa vie, il voit que les gens viennent s'agglutiner autour de lui, à écouter ses commentaires de l'écriture, à écouter sa parole. Et il se dit, tiens, mais là, il y a quelque chose qui s'est passé en moi. Enfin, on a l'impression qu'il découvre ça lui-même aussi. Il ne donne pas d'explication qu'est-ce qui s'est passé. Et on a l'impression que c'est dans sa mission, au fur et à mesure qu'il se rend compte que des gens s'attachent à ses paroles, qu'il pense qu'il a une mission particulière qui lui dévolue.
Alors donc, ce retour au texte premier, à cette notion aussi d'élection, puisqu'il parle de l'élection d'Israël au sein des nations. Élection d'Israël, vous le rappelez, qu'il qualifie de ségrégation par rapport aux autres peuples, mais sans cause réelle, mais il la reconnaît,
oui, mais
il la respecte en tant que telle.
Souvent, c'est une manière de parler du salut par la grâce. La grâce, on ne sait pas comment elle agit, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas pourquoi certains, et c'est comme ça qu'il définira cette théorie de la prédestination.
Voilà, c'est ça. Alors.
Pourquoi certains sont touchés, pourquoi certains s'attachent à l'évangile, pourquoi d'autres sont totalement indifférents, pourquoi d'autres le rejettent.
Alors, quelle réponse apporte-t-il à ça quand on lui apporte les questions?
Justement, c'est comme ça qu'il a fondé cette théorie de la prédestination, en disant qu'au fond, c'est Dieu qui choisit. C'est Dieu qui dit la première parole. C'est notre oui, l'acceptation de l'homme, elle est importante. Et il y a eu beaucoup de débats par la suite entre les théologiens protestants. Est-ce que la part de l'homme est essentielle ou est-ce que c'est la part de Dieu qui compte? Et à la fois, ça, on peut dire que c'est les deux. Mais en même temps, c'est d'ailleurs la différence entre le baptême d'enfant et le baptême d'adulte. Le baptême d'enfant signifie la grâce de Dieu première et le baptême d'adulte signifie la réponse de l'homme. Et donc pour Calvin, finalement, d'accord, on répond oui à un amour de Dieu premier, mais sans cet amour de Dieu premier, on ne serait rien. Et pourquoi certains sont touchés par cet amour de Dieu, pourquoi d'autres ne sont pas touchés? Il dit c'est le mystère de Dieu. Il dit qu'il ne faut pas y entrer. Il ne s'agit pas de dire Dieu a fait ça ou Dieu serait coupable du péché ou Dieu manigance quoi que ce soit. On n'en sait rien de ce que pense Dieu dans son fort intérieur. Mais de fait, on constate qu'aujourd'hui, il y a des hommes qui sont touchés par, ou des femmes touchées par la grâce et d'autres qui ne le sont pas. Et pourquoi? Est-ce que c'est la faute de ces hommes? Lui, il dit non. Il dit c'est la grâce de Dieu. Et il appelle ça la prédestination.
Il y a une question très importante que vous soulevez, page 200. Dieu prédestinerait-il au mal? Alors vous dites, Dieu ne prédestine pas au mal.
C'est ce que dit Calvin aussi.
Voilà, c'est ce qu'il dit. C'est l'homme qui tombe par sa faute.
Ouais. C'est-à-dire que Alors, il dénonce beaucoup, il est très frappé, on le disait au moment, au début, il est très frappé par le mal. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait quand même, c'était cette époque où il y avait des mots terribles, hein, peste, enfin, des maladies,
une
des
vision
guerres.
apocalyptique, ouais, d'une société.
Il y avait une espèce
qui finissait en quelque sorte.
Exactement, hein, exactement. Il y avait une espèce de peur, des signes des temps. Enfin, cette époque-là est très baignée d'angoisse. Hein. Et donc, il attribue tout ça au déchaînement du mal. D'ailleurs, toutes les époques troublées, aujourd'hui, on a un peu cette impression. Hein. On parle beaucoup de fin du monde, d'apocalypse. D'ailleurs, tous les discours un peu écologistes, certains critiquent ça en disant que voilà, on nous fait du catastrophisme pour nous, parce qu'on est dans un esprit du temps, voilà, comme si c'était le temps de la fin. On en sait peut-être, c'est inquiétant, mais au fond, on n'en sait pas grand-chose puisqu'à l'époque. Mais c'est vrai que cette époque-là, il avait l'impression qu'il y avait un déchaînement du mal. Et que dans cette époque-là, certains étaient appelés à être comme des lumières. Et ceux qui sont prédestinés au salut, ceux qui sont prédestinés au mal, il n'en parle pas. Il dit, mais le mal, il est là, il est tout puissant, il règne. Mais au milieu de ce mal qui règne, qui est vraiment puissant, quelques-uns sont appelés à être témoins d'une grâce qui vaincra au dernier temps. Mais cette grâce, elle nous appartient pas. Elle est des signes dans le monde. C'est pour ça qu'il fait la comparaison avec Israël. Il dit Israël n'est pas élu parce qu'il est particulièrement un peuple digne d'intérêt ou intelligent ou fortuné ou je sais pas trop quoi.
Ou plus que les autres.
Plus que les autres, mais il est là. Il est responsable des autres. Il est là pour être une lumière parmi les autres. Cette élection n'est pas une espèce de chance, mais c'est une responsabilité. Ça nous implique une responsabilité particulière dans le monde. C'est comme ça qu'il comprend la prédestination. Moi, je trouve ça intéressant. C'est-à-dire, c'est pas à la fois. Enfin, moi, ça me parle. Il ne s'agit pas de dire, même par rapport à Israël, Israël n'est pas élu parce qu'il est un peuple exceptionnel. Il est élu pour être porteur de quelque chose de particulier. Et ça, c'est important même dans l'actualité.
C'est
aujourd'hui.
Plutôt le peuple missionnaire, voilà. Que le peuple.
C'est plutôt le peuple qui est témoin.
Chanceux est témoin. D'avoir reçu une élection.
Voilà. Il n'y peut rien. Ouais. Il a été touché par une grâce qui ne lui revient. Pourquoi on n'en sait rien, qui est de lui fait même de Dieu. Mais par contre, cette grâce, elle oblige. C'est la grâce qui coûte. Cette grâce, elle oblige à être responsable de manière particulière dans le monde. Et c'est comme ça que Calvin définit la prédestination. C'est-à-dire, ceux qui sont appelés, ils n'ont pas là pour eux-mêmes, ils sont là pour être témoins.
C'est comme le prophète qui définit comme ça sa mission.
Bien sûr.
Le prophète qui va, comme vous le disiez tout à l'heure, qui fuit devant la mission qui lui semble trop lourde.
C'est une charge, en fait, d'être élu. C'est pas une chance, c'est une charge.
Alors, pour remettre ça dans le contexte historico-politico de l'époque, Jean-Luc Mouton, vous écrivez, page 201, « L'essentiel de la doctrine se résume à cet objectif, à l'époque, apporté aux fidèles, excommuniés et persécutés par l'Église de Rome et ses papes d'alors, un sentiment indestructible de communion personnelle avec Dieu. » Parce qu'il ne faut pas oublier que c'était un marasme formidable par rapport à l'Église.
Ouais, ouais. C'est-à-dire que ce qu'on ne peut pas imaginer, c'est que cette ville de Genève, et ce n'est pas grand-chose Genève à l'époque, aujourd'hui ce n'est pas une très grande ville non plus, c'est 300 000 habitants, mais enfin à l'époque c'était une bourgade, c'est rien du tout. C'est d'ailleurs la réforme, tous les réfugiés de France et de Navarre qui ont apporté l'horlogerie, l'imprimerie, les cultures, enfin à l'époque c'était rien du tout. Donc on peut imaginer une petite ville qui était aux prises avec l'Europe entière, parce que l'Europe était, c'est-à-dire cette fracture de la réforme, c'est quelque chose d'inouï à l'époque. C'est-à-dire quand on est passé à la réforme, on est tout seul face à l'austérité du monde, face au pouvoir politique, face au pouvoir de l'Église et face à sa puissance d'excommunication. Enfin, c'est-à-dire, on est quand même totalement marginalisé. On peut pas, historiquement, on n'arrive pas à se replonger dans une époque pareille. Je ne sais pas quel exemple prendre aujourd'hui pour faire comprendre la marginalisation radicale qu'on avait, qu'on subissait quand on était passé à la réforme. Et donc, ces petits groupes de gens qui, malgré tout, contre vents et marées, contre toutes les puissances du temps, décident de suivre une voie particulière, ben cela, il faut les encourager, il faut qu'ils soient vraiment soutenus par quelque chose d'exceptionnel pour pouvoir durer, pour pouvoir persévérer. Et c'est à eux que s'adresse tout en Calvin. Et donc, cette parole sur la prédestination, elle est pour ces gens-là qui se sentent pourchassés et persécutés de toutes parts. Et ils le sont, de fait, puisqu'ils fuient leur pays, enfin, ils fuient toutes les régions de France.
Ce qui est appréciable dans votre ouvrage, paru dans la collection Folio Biographie chez Gallimard, Jean-Luc Mouton, c'est que vous posez les questions, mais vous y apportez des réponses aussi avec un éclairage qui nous concerne, nous, en 2009. Par exemple, par rapport à cette théorie de la double prédestination, de la prédestination, vous posez la question, page 202, mais comment savoir alors si on est élu? Et là, on vous suit, on est captivé par ça. Vous ne pratiquez pas simplement la distanciation vis-à-vis d'un personnage que vous étudiez, mais en plus de ça, vous impliquez notre intérêt, notre questionnement à nous, contemporains de cette époque 2009. Parce que ça, c'est une phrase qui nous intéresse aussi. Comment est-ce qu'on est élu? Alors, à cette question, écrivez-vous, Calvin n'admet qu'une réponse. Nous devons nous contenter de savoir que Dieu en a décidé ainsi et persévérer dans l'inébranlable confiance en Christ qui résulte de la vraie foi. C'est simple, dites-vous. Si en m'adressant à Dieu, je l'appelle Père, en le considérant comme un Père favorable, je suis certainement élu.
Voilà, c'est vrai que ça parle pour nous aujourd'hui. Mais moi, c'est mon travail de journaliste, je dirais ça, de voir comment... c'est là que je suis le... pas complètement un historien. Il y a des historiens qui diraient, écoutez, là, vous faites des commentaires, vous dépassez votre rôle.
Mais c'est vrai que... qui nous parle.
Ouais, bien sûr. Et moi, j'essaie de dans la mesure où on m'a demandé de le faire comprendre. Voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça donne pour nous? Ça donne ça. Ça donne que ces paroles-là, on peut en l'entendre encore aujourd'hui. Et c'est pour ça que ce Calvin, il a été aussi important. C'est qu'il a des intuitions, il donne des clés un peu qui sont, moi, il me semble, qui sont universelles, qui parlent encore. Certaines choses ne parlent plus, mais certaines choses comme ça, effectivement, nous touchent, bien sûr, parce que voilà, c'est aussi simple. C'est un langage. D'ailleurs, il parle beaucoup de la simplicité, de la clarté. Son travail, c'est d'être clair, c'est d'expliquer les choses simplement. Et il s'adresse à tous les publics. Et à tous les publics, il donne une parole qui se veut intelligible. Donc moi, j'ai essayé de faire ça. J'ai essayé aussi de dire, voilà, ce qu'il disait à l'époque, aujourd'hui, on peut le comprendre de cette manière-là. Et ça peut nous parler encore. C'est un peu ce que j'essaie de faire quand j'écrivais mon Calvin à moi.
Pourquoi avoir souhaité écouter un extrait de La Passion selon Matthieu ?
Alors, La Passion selon Matthieu, d'abord, quand on écoute Bach, moi j'aime beaucoup Bach parce que Bach, en même temps, d'abord c'est un chrétien extraordinaire, c'était le cantor de son église, c'est un luthérien, mais ça, c'est un frère, bien sûr, aussi comme d'autres frères, comme les catholiques sont aussi nos frères aujourd'hui. Mais ce que j'aime beaucoup chez Bach, c'est qu'il fait des commentaires, c'est-à-dire qu'il commente le texte biblique dans le chant même. Par exemple, je sais pas si on écoutera cet extrait, mais un extrait de La Passion, quand y a des récitants qui posent des questions du texte, hein, qui récitent le texte, on sent l'interrogation. Qu'ont tous ces gens qui assistent à la mort du Christ, qui assistent à l'agonie. Je ne sais pas, il y a des dialogues là qui sont retransmis par la musique. On sent le questionnement, on sent l'angoisse, pas l'angoisse, mais peut-être l'incompréhension face à cette mort du Christ. Je trouve que le Bach, il donne en plus d'une une musique magnifique. Quand on l'écoute, on sent le commentaire. Il y a du commentaire chez Bach. Bach, il fait son travail comme Calvin, comme d'autres réformateurs, ou comme nous, chrétiens. Il commente l'écriture. Il essaie de la comprendre pour lui. Et il a transmis ça, au lieu de transmettre, comme je le fais maintenant, en termes intelligibles, en paroles. Et lui, il le transmet par sa musique. Et moi, ça me touche beaucoup. Je fais 5 ou 6 ans de journaliste politique. Enfin, je fais toujours de la politique dans mon travail quotidien.
Alors, par rapport à cette immersion dans l'œuvre et la vie de Jean Calvin, j'aurais souhaité vous demander si vous étiez croyant, Jean-Luc Mouton, oui, en travaillant pour Réforme.
Bien sûr. Oui, enfin, je dis bien sûr, ce n'est pas une obligation. Quand on travaille à Réforme, on ne demande pas sa confession de foi à l'entrée. Mais c'est évident que si je ne l'étais pas, je ne sais pas si on m'aurait pris comme directeur de Réforme quand même, puisqu'il y a un travail théologique ou spirituel qui est important dans ce journal.
Alors, quand est-ce que la vie fait en sorte qu'on peut cumuler les deux, c'est-à-dire un intérêt professionnel et en même temps des sujets qui nous intéressent au plus profond de notre être, de nous-mêmes, de notre pensée, de notre recherche comme construction d'être, c'est-à-dire la foi?
Moi, je crois que si on n'a pas d'empathie avec le sujet qu'on aborde, on ne l'aborde pas de manière juste. Enfin, parce qu'il y a une espèce d'idée qu'il faut être à distance, une espèce de critique. Enfin, quand j'étais journaliste politique, j'ai beaucoup aimé ce travail, mais j'étais un peu malheureux d'espèce de cynisme ambiant des journalistes. journalistes qui doutent de tout, qui sont presque, oui, qui sont cyniques, qui ne croient pas à ce que disent les hommes politiques. Tout le monde, c'est un jeu de faux semblants de théâtre. Et je trouve que ça accentue la distanciation entre le monde réel et les politiques. C'est pas ça. Et moi, je trouve que finalement, on ne parle bien de quelque chose avec profondeur, avec justesse, que si on a une vraie empathie et une vraie bienveillance pour le sujet pour lequel on travaille. Et donc, moi, je ne vois pas comment on peut voir les deux. Je ne dis pas qu'on ne peut pas le faire, mais on ne parle vraiment avec, à la fois, moi j'essaie d'avoir une distance, une juste distance, je suis critique pas mal de fois sur Calvin, parce qu'on parle de Calvin, mais sur d'autres sujets, je trouve qu'il faut à la fois garder cette distance, mais il faut avoir une vraie bienveillance pour le sujet dans lequel on est, et puis une empathie intérieure, qu'on ressente les choses. Si on est très loin, très distant, on ne comprend pas ce qui se passe. Moi je pense que par rapport aux questions de foi, même par rapport aux autres religions, si on ne voit pas pourquoi un musulman se tourne vers la Mecque, si on n'a pas de respect pour ça, si on ne sent pas la profondeur où ça rejoint la personne, on ne peut pas en parler. Enfin, il me semble. Donc moi, je me dis qu'il faut avoir une espèce de sensibilité profonde aux différences religieuses, et c'est comme ça que j'essaie de le pratiquer. C'est pour ça que je crois que c'est comme ça qu'on peut avoir une distance juste. Ricoeur parlait de la distance juste. Je pense qu'il y a des distances qui ne sont pas justes, des distances qui sont des distances de mépris ou de cynisme. Et je pense qu'il ne faut pas être dans cette distance-là. Il faut être dans une espèce de, à la fois de distance et de proximité. Il faut jouer entre les deux. C'est ce que nous a appris Ricoeur.
Oui, mais justement, avec cette loi de séparation de l'Église et de l'État, est-ce que votre foi ne vous encombre pas par rapport à votre métier de journaliste ?
Mais moi, je ne crois pas. Moi, je crois que ça me permet. Vous savez, c'est comme les gens qui disent, il ne faut pas enseigner à nos enfants, il ne faut pas leur enseigner de principes religieux, ils choisiront eux-mêmes, ils ne choisiront rien. Ils n'auront pas les éléments pour choisir. Donc si on veut, dans une société laïque, choisir, si on veut, dans une société laïque, se dire non-croyant, se dire athée, se dire de telle ou telle religion, ou se dire sans religion, il faut savoir ce qu'est la religion. Aujourd'hui, on ne sait pas le contenu. Globalement, en France, il y a une ignorance religieuse, mais qui est considérable. Quand je parle de Calvin, personne ne sait de quoi il s'agit, sans parler du contenu. Je veux dire, en France, on a quand même, à force de dire on est neutre, on ne s'occupe pas de tous ces domaines-là, on a trop évacué notre culture. Or, c'est aussi notre culture. Moi, je ne veux pas revenir sur ce débat. Est-ce qu'il faut vraiment mettre la religion partout ? Je ne crois pas. Je crois que je tiens beaucoup à la laïcité. Les protestants y tiennent beaucoup. Mais pour connaître quelque chose, il faut y entrer, il faut y pénétrer. Mais on peut le faire si on n'est pas un croyant. Denis Crouzet, dont je parlais tout à l'heure, l'a fait très bien dans son livre. Il dit lui-même au départ qu'il n'est pas croyant. On peut le faire, mais je pense qu'il faut aller plus loin que simplement de dire voilà, je suis neutre, ça m'intéresse pas, mais je me penche là-dessus de manière négligente. Non, il faut aller profond pour comprendre. Sinon, je pense qu'on ressent. On ne comprend pas. On comprend pas seulement avec les sentiments, mais avec l'intelligence. On n'a pas une vraie intelligence des situations. Bon, je ne vais pas juger mes confrères en disant ça. Moi, en tout cas, c'est ma pratique.
Oui, c'est votre pratique. C'est votre façon de voir et de vivre les choses. Alors justement, pour en revenir à la façon de voir et de vivre les choses par le réformateur Jean Calvin, justement, et pour répondre à cette question par rapport à sa théorie de la prédestination, question que vous posez, page 199, quelle liberté pour l'homme, en effet, si tout est déjà décidé par avance, si par une instance suprême et immuable. Et page 202, vous écrivez, la doctrine de Calvin s'articule en deux séquences distinctes. D'une part, durant sa vie, l'homme qui vit par la foi s'exerce à combattre le mal et vise à la sanctification de son existence. Il est le lieu d'une liaison entre Dieu et le monde, en ce qu'il croit et s'attend à la miséricorde divine. Et d'autre part, alors vous parlez de l'éternité, le monde d'en haut, qui est un domaine dont nul ne peut connaître le mystère, ni comprendre le mouvement et l'action. Et vous dites, entre ces deux temps, chaque croyant peut percevoir des indices avérés de son élection dans le cours de ses activités et dans sa vocation sociale. Et donc, vous citez le sociologue Max Weber avec toute sa théorie par rapport au travail. Alors, cette notion de travail très importante hein, chez les protestants, dans le protestantisme. Ouais.
Pour Luther, le travail dans la cité, c'est le mot allemand, c'est Beruf, ça veut dire vocation. C'est-à-dire, le travail, c'est pas seulement un enchaînement, on ne travaille pas seulement pour se nourrir, on travaille parce qu'on est appelé à tenir dans le monde un rôle. Et quel que soit ce rôle, que ce soit laboureur, que ce soit cordonnier, que ce soit enseignant, et chacun est à une place, non pas qu'il lui est donné, prédestiné par Dieu, on peut changer de place, il faut se former pour changer de place, il faut apprendre des métiers, il faut apprendre des techniques, mais il y a une valorisation du travail, de la création de l'homme, et ça, pour une raison très simple, c'est que plus besoin de chercher à acquérir les bienfaits de Dieu, acquérir l'éternité, le salut, tout ce qu'on veut, par toutes sortes de pratiques religieuses, une inflexion de rites, etc. Tout ce champ, il est libéré puisque c'est acquis. La grâce est donnée par Dieu. Et donc maintenant, il ne s'agit plus d'essayer par des tas de pratiques religieuses d'acquérir. Mais le champ, c'est le monde. Donc, C'est vrai que là, je pense que la thèse de Max Weber, elle est juste dans ce sens-là. C'est-à-dire que dans la mesure où on a libéré l'activité humaine, où l'activité humaine, elle est le lieu où Dieu rencontre les hommes, on est le lieu où on s'accomplit en pleinement comme homme et comme femme, eh bien, dans le monde protestant, c'est là qu'on a vu l'effervescence de création à la fois industrielle, banquière, artistique, tout ce que vous voulez. Enfin, donc c'est vrai qu'il y a là, dans la réforme, l'idée que la vocation des hommes et des femmes, c'est d'être dans le monde et c'est de travailler à l'épanouissement du monde, à son enrichissement, à son progrès. Et donc, on peut dire que les théories du progrès, elles prennent peut-être, enfin, en partie, naissance là. Je dis pas que Max Weber a absolument raison sur tout, que Calvin, c'est l'essence du capitalisme. Je pense pas que Calvin a inventé le capitalisme, mais il y a quelque chose qui est lié avec l'essor industriel des sociétés modernes, qui est là chez Calvin.
Jean-Luc Mouton, avec votre parcours au niveau de la politique, du journalisme en matière de politique, à votre avis, est-ce que Calvin a été théocrate? Est-ce que vous voyez Calvin, vous qui avez côtoyé, qui avez connu, et qui êtes le monde politique actuel et le monde politique de l'histoire, vous qui vous êtes immergé dans les textes de Calvin, vous semble-t-il avoir été un grand malade de la politique et a-t-il mélangé les genres? A-t-il mélangé religion et politique? Chose qui se faisait à l'époque.
Oui, hein. Mais le problème, c'est qu'on l'accuse de ça, et ça, c'est sans fondement. C'est vraiment une des erreurs énormes qu'on fait sur Calvin. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui qui traitent d'ayatollah qui disent voilà, c'est Genève, c'était comme la République islamique d'Iran ou je sais pas d'où, en disant qu'on confondait tous les registres religieux et politiques. Or, c'est absolument faux. Si quelqu'un a distingué les régimes, c'est bien Calvin. Pour Calvin, il y a deux registres, il y a celui des autorités civiles qui ont une autonomie, et il y a celui du consistoire, donc de l'église de Genève, qui a son autonomie. Et ce qui est très intéressant par Calvin, ce n'est pas la laïcité française, c'est plutôt le modèle américain. C'est-à-dire que pour lui, les deux sphères existent, sont indépendantes l'une de l'autre, mais l'une contrôle l'autre. C'est-à-dire que le religieux vient dire aux politiques, écoutez, là, on n'est pas d'accord. Souvent, il intervient pour qu'on s'occupe des pauvres, pour qu'on s'occupe des gens qui ont la peste, pour qu'on fasse attention à telle et telle chose qui n'irait pas. Le défaut de ça, c'est Servet, c'est-à-dire qu'il intervient sur des questions. Il dit au magistrat, ce type-là conteste les fondements de la religion chrétienne et conteste l'ordre du monde. Ça appartient au magistrat de le juger. Là, on peut contester. Mais en même temps, il n'accepte pas que... Parfois, il se bat contre le magistrat qui veut trop intervenir dans le politique. Et donc, il dit que l'un est limité par l'autre. Il ne s'agit pas que l'un soit soumis à l'autre.
Dans le religieux, le magistrat.
Voilà, quand le magistrat intervient trop dans le religieux, il conteste le magistrat. Mais quand lui intervient trop chez le magistrat lui dit non, retourne à ton religieux. Et c'est lui qui a institué ça. Il est dans les fondations.
De vase communicant.
Voilà, dans les fondations de Genève, il y a cette idée que les deux instances doivent être l'une à côté de l'autre, face à face, sont relativement en conflit, mais l'une sont contrôlées par l'autre. Et c'est comme ça qu'il se fait un équilibre. Mais il ne faut absolument pas que le politique domine le religieux, mais il ne faut pas non plus que le religieux domine le politique. Ils pensent absolument l'inverse. Alors, ce n'est pas la laïcité à la française. La laïcité à la française, c'est une émancipation du religieux, sur le religieux. C'est-à-dire que le politique prend barre sur le religieux. C'est-à-dire qu'on met l'Église de côté et on peut dominer. C'est-à-dire que c'est l'émancipation. Ça, c'est Machiavel. Hein. Alors que la vision de Calvin, c'est de dire qu'il ne s'agit pas que l'un écrase l'autre, mais c'est que l'un soit contrôlé par l'autre et vice-versa. Et donc, ce modèle de relation entre le politique et le religieux, je trouve que c'est ce modèle américain parce que, à la fois, aux États-Unis, l'État, c'est bien, il a une place, mais en même temps, l'État est une menace. Et il faut que les religions, c'est une menace, mais c'est aussi le lieu des libertés. Et en France, on pense l'inverse. On pense que l'État, c'est toujours celui qui préserve les libertés et que les religions, c'est plutôt menaçant. Et les États-Unis, c'est l'inverse. Et Calvin est plutôt du côté des États-Unis. Il pense que les religions, ça peut être aussi au service des libertés.
Alors justement, en quatrième couverture de votre livre paru aux éditions Folio chez Gallimard, Jean-Luc Mouton, vous placez en très belle visibilité la phrase de Calvin, je pense, « Là où Dieu est pris au sérieux, l'humanité est bien prise en charge. »
C'est ça qu'il pense vraiment.
Alors justement, que signifie pour vous « Là où Dieu est pris au sérieux »
Là où Dieu est pris au sérieux, c'est là où on écoute sa parole. C'est le message biblique, c'est-à-dire que pour lui, le culte des reliques, les superstitions menées par l'Église romaine, les peurs utilisées par l'Église romaine pour maintenir les consciences dans, j'allais dire, l'abêtissement, enfin, dans la domination, ça, c'est pas prendre Dieu au sérieux. Prendre Dieu au sérieux, c'est écouter une parole qui veut nous mettre debout, qui veut nous rendre libres, qui veut nous rendre responsables dans lequel monde nous sommes. Et cette parole qui nous met debout, elle nous conduit à être dans le monde et à être bien à notre place dans le monde. Et si on prend Dieu au sérieux, l'humanité est prise en charge parce que ça veut dire que les hommes sont à leur place. Et il ne s'agit pas pour les uns de dominer, d'écraser les autres, mais de chacun être à sa place et être dans la place que Dieu lui a demandé d'avoir au service des uns des autres.
C'est cette communication qui ne fonctionne pas en Europe.
Oui, c'est pas encore. Les idées de Calvin sont belles, mais elles sont pas. On peut dire qu'elles sont pas encore appliquées.
Il y a beaucoup de méfiance par rapport.
C'est ce que disait Théodore Monod aussi. L'évangile, on ne sait même pas qu'est-ce que ça fait parce qu'on l'a encore jamais essayé. On ne sait pas les conséquences que ça peut avoir parce qu'on n'a pas essayé. On a toujours profité de l'évangile, on a toujours utilisé le message de la Bible au profit de telle ou telle cause, mais on n'a jamais essayé de vivre vraiment l'évangile.
C'est peut-être ce qu'on nous souhaite.
Voilà, on peut dire ça. C'est ce que
à l'orée de cette année consacrée à Jean Calvin. Jean-Luc Mouton, merci d'avoir participé à cette réflexion autour du grand réformateur Jean Calvin et à l'écoute donc des auditeurs de Canal Académie. Merci Jean-Luc Mouton.
Merci à vous.